town. I'm in a bourgeois city. I got the bourgeois blues. Spread the news all around. Get on a train to get out of town. Sign up as a politician with his head down, down. Walk back streets for fresh air. I meet a journalist with no money to pay. I'm in a bourgeois town. I'm in a bourgeois town. I'm in a bourgeois town.
2, 3, 4.
Rolling home alone.
Radio France Internationale, 7h à Paris, 8h à Beyrouth.
Andréane Mélard.
Et 6h en temps universel. Bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, Paul, Israël continue de traquer le Hezbollah dans ses multiples bastions.
Oui, en frappant plusieurs quartiers de Beyrouth hier, mais aussi la ville de Baalbek dans la vallée de la Beka, c'est dans l'est du pays. Le reportage de nos envoyés spéciaux est à écouter dans un instant. Les infrastructures gazières qui se retrouvent aussi visées ces dernières heures, à la fois par Israël et par l'Iran. Des missiles iraniens ont notamment touché le site qatarien de Ras Laffan cette nuit. Les prix du pétrole, eux, continuent de grimper. Cette guerre au Moyen-Orient, elle sera aussi au sommaire du Conseil européen qui démarre à Bruxelles aujourd'hui. Et puis à l'approche du second tour des élections municipales en France dimanche, les trois candidats à la mairie de Paris débattaient hier à la télévision dans une atmosphère bouillante.
Les appels à cesser les hostilités au Liban se multiplient.
Et pour témoigner de la solidarité et du soutien de la France au peuple libanais, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, se rend au Liban aujourd'hui. L'Union européenne, de son côté, a aussi demandé à Israël de cesser ses opérations dans le pays.
Sauf que l'État hébreu ne l'entend pas de cette oreille.
Et l'armée israélienne a frappé hier 3 quartiers densément peuplés de la capitale, Beyrouth. 2 ponts enjambant le fleuve Litani ont aussi été détruits dans le sud du pays pour isoler encore un peu plus le Hezbollah, le mouvement chiite qui a aussi installé l'un de ses bastions à Baalbek. C'est dans la vallée de la Beka où de nouveaux bombardements ont notamment tué une famille hier. Nos envoyés spéciaux au Liban, Abla Jounaidi et Jadel Khoury, s'y sont rendus.
À Baalbek, une frappe israélienne a tué plusieurs personnes, dont 2 enfants, mercredi. Tout autour, des villages ont été ciblés, faisant aussi des tués. Pour échapper à la mort, plusieurs centaines de personnes ont trouvé refuge dans le village de Deir al-Ahmar depuis la nuit du 2 mars dernier, début de la guerre.
On a été la première école à ouvrir ses portes.
Le directeur de l'école secondaire, Sharb
al-Saadeh. Parce qu'on est le village le plus proche de Baalbek, les gens qui ont été touchés sont venus ici immédiatement. Et on était prêts à les accueillir.
Village chrétien, accueillant des déplacés majoritairement chiites. Un geste tout sauf inédit, assure Jaafar, un vieil homme de Baalbek.
Les gens de Deir al-Ahmar se sont bien occupés de nous. Et ce n'est pas la première fois. C'était déjà le cas en 2024 et avant ça encore en 2006. On s'était installés dans leurs écoles. Ils ont toujours pris soin de nous.
La mairie a ouvert ses portes à 5000 personnes de la vallée de la Beka, à qui elle offre grâce à des ONG un repas chaud quotidien, au moins. Nous ne pouvons faire plus sans aide internationale, déplore le maire adjoint du village. Abla Jounaidi, Jadel Khoury, Beyrouth, RFI.
Et selon les autorités libanaises, depuis le 2 mars, 968 personnes sont mortes dans la guerre au Liban.
Face aux frappes iraniennes, l'Arabie Saoudite se rebiffe.
Et dit se réserver le droit de répliquer militairement si cela s'avère nécessaire. C'est ce qu'a déclaré ce matin le chef de la diplomatie saoudienne. Et ce alors que des drones ont de nouveau été interceptés hier soir à proximité d'un complexe énergétique dans l'est du pays. Cette nuit, c'est un site gazier, le site gazier de Ras Laffan au Qatar, qui a été frappé par l'Iran en représailles à un bombardement israélien sur le champ de gaz de South Pars, qui est précieux pour Téhéran. Le président américain Donald Trump a menacé de le détruire entièrement si le GNL qatarien était encore visé.
Ce qui est également vital pour l'Iran, c'est son pétrole.
Oui, pétrole que le régime parvient encore à exporter dans des quantités presque aussi importantes qu'avant la guerre, et ce, malgré le blocage du détroit d'Ormuz. Pierre-Olivier.
L'Iran continue d'exporter 1 200 000 barils par jour, soit à peine 300 000 de moins qu'avant la guerre. Les autres pays du Golfe, eux, sont en difficulté, en cause le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran qui laisse passer ses propres pétroliers. Omayoun Falakshahi, responsable de l'analyse pétrolière chez Kepler.
Les Iraniens savent qu'il s'agit d'un navire transportant leur pétrole, donc ils ne vont pas l'attaquer.
Destination, la Chine. 12% du pétrole consommé par le géant asiatique provient d'Iran via Hormuz. Omayoun Falakshahi.
Si la Chine n'a plus accès à ce pétrole, les acheteurs chinois de pétrole iranien vont devoir se procurer en pétrole ailleurs. Donc en fait, ça va tendre le marché encore plus qu'il n'est tendu aujourd'hui.
Conséquence, les Américains fortement déployés près du détroit d'Hormuz laissent les pétroliers iraniens passer.
Pour les États-Unis, le principal risque, c'est que le prix du pétrole devienne incontrôlable. Et ça pourrait accroître la pression politique sur l'administration Trump pour arrêter la guerre.
Un moyen aussi d'éviter une escalade dans la région. Pour preuve, les récents bombardements américains sur l'île iranienne de Karg, point névralgique de l'industrie pétrolière, n'ont visé que les installations militaires et pas les dépôts de brut.
Et comme l'expliquait Pierre-Olivier à l'instant, ces prix du pétrole ne s'envolent pas complètement en flèche en raison des exportations iraniennes, mais le tarif du baril de Brent a quand même augmenté de 5% cette nuit, atteignant quasiment 113 $. Cette instabilité des coûts de l'énergie provoquée donc par cette guerre au Moyen-Orient, ce sera le dossier brûlant abordé aujourd'hui à Bruxelles où démarre le Conseil européen. Les 27 dirigeants de l'UE seront présents et vont donc devoir s'entendre pour déterminer une position commune face à cette nouvelle crise majeure, Daniel Valo.
C'est une tradition qui a décidément bien du mal à être respectée à Bruxelles. Le sommet européen du printemps est censé être consacré aux questions économiques, mais une fois encore, les soubresauts de la planète vont bousculer l'agenda initial. Avec cette nouvelle guerre au Moyen-Orient, les dirigeants européens doivent en effet relever un double défi. Défi numéro 1, adopter une position commune sur ce conflit que les pays européens refusent de soutenir sans pour autant le condamner, en tout cas avec la même véhémence et la même clarté que l'a fait jusqu'à présent l'un d'entre eux, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Défi numéro 2, trouver des mesures de soutien économique pour éviter une envolée des prix de l'énergie. La Commission européenne doit proposer des solutions de court terme, mais certains pays veulent aller au-delà. Surtout ceux comme l'Italie qui ont parié ces dernières années sur le gaz et sur le pétrole et qui réclament un assouplissement du marché carbone. Au sein des institutions européennes, on se veut cependant rassurant. Nous sommes encore loin des niveaux atteints par les prix de l'énergie en 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, souligne à Bruxelles, un responsable européen.
Daniel Valo.
L'Europe face à la guerre au Moyen-Orient, en Ukraine. Arnaud Pontus en parle dans 10 minutes avec son invité, l'ancien commissaire européen et ancien ministre Thierry Breton.
Impossible pour les Sénégalais de retirer de leur maillot la deuxième étoile acquise fin janvier. La décision de la CAF de désigner le Maroc vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football ne passe toujours pas chez les autorités sénégalaises. Hier, le gouvernement a fait part de sa vive consternation et réclamé l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçon de corruption au sein des instances dirigeantes de la Confédération africaine de football.
On en reparle dans la revue de presse africaine à 6h44, temps universel. Un appel à l'aide, Paul, lancé par des déplacés ayant fui les combats dans l'est de la RDC.
Oui, plusieurs centaines d'entre eux ont en effet passé la nuit de mardi à mercredi devant le gouvernorat de la province de Lubumbashi. Ces Congolais ont ont quitté leur terre où se déroulent des affrontements entre la FCM 23 appuyée par le Rwanda et les FARDC et ses alliés. Aujourd'hui, ils n'ont ni abri ni nourriture. Les défenseurs des droits humains dénoncent l'indifférence de l'État face à cette situation, Denise Maéo.
À l'entrée du gouvernement provincial ce mercredi matin, des centaines de déplacés, parmi eux des femmes et des enfants, sont assis à même le sol. Certains, visiblement fatigués et affamés, sont allongés. Depuis 24 heures, ils demandent une assistance, explique Paul Biamungu, leur président.
Nous n'avons ni nourriture ni soins de santé. Les maisonnettes qui nous abritaient se sont écroulées à la suite des grosses pluies de ces derniers temps. Presque toutes les familles passent la nuit dehors. Nous venons ici pour voir les autorités afin qu'elles nous aident.
Depuis des semaines, ces déplacés font la ronde des institutions provinciales dans l'espoir de se faire entendre. Maître Hubert Kiswaka, directeur de l'Institut de recherche en droits humains, qui les accompagne, s'est dit choqué.
Se laisser aller prouve que l'État est complètement en faillite. Les gens ont fui la guerre, ils n'ont rien, ils cherchent de l'aide et l'État les abandonne sur la rue et en pleine ville devant le bureau du gouvernement. C'est choquant.
Mercredi soir, le gouvernement provincial a promis de leur apporter de l'aide dans les 3 jours. Les déplacés sont retournés dans les quartiers où ils sont provisoirement logés, certains dans des églises. Denise Maéo, Lubumbashi.
En RDC, toujours Modeste Bahati a décidé hier de démissionner de son poste de deuxième vice-président du Sénat. Il était visé par une pétition à son encontre pour le motif d'incompétence depuis des déclarations jugées opposées à une potentielle révision constitutionnelle poussée par le parti présidentiel. La campagne pour le second tour des municipales en France s'accélère. Il reste 3 jours avant le vote. À Paris, le socialiste Emmanuel Grégoire, Rachida Dati pour la droite et l'insoumise Sophia Chikirou vont se disputer l'hôtel de ville dimanche. 3 finalistes qui ont débattu hier soir à la télévision sur BFM TV. Des échanges qui ont duré 3 heures sur un ton parfois houleux. Et le candidat de la gauche unie, arrivé en tête au premier tour, a évidemment été au centre des joutes, Raphaël Delvolvé.
Face à une adversaire en retard sur lui, Rachida Dati.
Monsieur Grégoire, il veut faire un front républicain pour occulter le mauvais bilan qu'il a.
Une concurrente, Sophia Chikirou, sans rien à perdre et s'inscrivant davantage dans une stratégie nationale visant à affaiblir le PS.
Et mon programme, c'est celui d'une rupture avec le monde du Parti Socialiste.
Emmanuel Grégoire choisit d'épargner l'insoumise avec laquelle il a refusé de s'allier, mais dont les voix l'intéressent au moins en partie.
Je n'ai qu'une seule adversaire. C'est Rachida Dati.
Rachida Dati dans le viseur et qu'il juge lié à l'extrême droite après le désistement de la zémouriste Sarah Knafo.
Vous ne pourrez pas être élu sans le soutien explicite de l'extrême droite. C'est une faute morale.
Pourquoi vous mentez ? J'ai pas d'accord secret.
L'ex-ministre de la Culture tente de balayer l'accusation et attaque à son tour l'héritier d'Anne Hidalgo sur la sécurité, le logement, mais aussi le récent scandale sexuel dans le périscolaire parisien avec son allié de circonstance.
On parle de viol d'enfants de 3 ans. Monsieur Grégoire fait comme s'il découvrait les choses, ça fait 12 ans.
Monsieur Emmanuel Grégoire devrait assumer ses responsabilités.
Au point de le mettre parfois en difficulté.
S'il y a eu des manquements, et à l'évidence il y en a eu, il y a des procédures qui sont en cours et qui tireront toutes les responsabilités.
Les discussions ont aussi souvent tourné à la foire d'empoigne.
Vous allez augmenter.
Bien sûr, nous avons
un unique débat à l'image d'une campagne tendue et dont les effets se mesureront ce dimanche.
Raphaël Delvolvé.
Et puis, qu'est-ce qui se cache entre les rayons des supermarchés ? Une partie de la réponse se trouve dans un film, Paul, qui vient de sortir en France.
Et qui s'intitule La guerre des prix. C'est le premier long métrage d'Anthony Deschaux, un thriller social qui plonge dans les coulisses des négociations commerciales entre grandes surfaces et producteur laitier, Elisabeth Le Quéret.
Mais qu'est-ce que tu vas aller foutre à la centrale ?
Ils veulent miser à fond sur le local.
Entre eux, ils s'appellent les requins. Ce sont les acheteurs des grandes enseignes de distribution chargées de pressurer les fournisseurs, agriculteurs et éleveurs pour arracher des prix les plus bas possibles et gonfler ainsi les marges de leurs enseignes. Audrey, fille de paysan, débarque dans l'une de ces centrales d'achat avec ses convictions en bandoulière, défendre le bio, le local, les petits producteurs. Elle croit pouvoir réformer la machine.
Défait, représente tous les défaits, représente tous les défaits, représente tous les bibibi, un petit canard.
Je n'ai pas de route toute tracée, c'est mon dièse, dièse, dièse. Jamais eu de capitaine, jamais suivi de troupeau, non. Quand les autres attendent à bouffer, je me sers. Pas de cantine, je n'ai pas d'école. Difficile pour moi de mentir, difficile pour moi de rester dans les ranges, je vais pas ramper pour être en reste. L'uniforme, ça me bride, rien à faire. Je suis né sans, j'ai toujours eu nos idées, on ne change, ne change pas. Un vilain petit canard. On ne change, ne change pas. Un vilain petit canard. J'en connais qui ont peur d'exister. Chez mes pères, pères, pères. Beaucoup préfèrent se laisser guider. Je préfère me laisser perdre. Si je veux le jeu, c'est juste imiter. Alors je cherche, cherche, cherche. Mais j'ai toujours pas trouvé les codes. Difficile pour moi de mentir. Difficile pour moi de rester. Dans un camp, je fais pas la guerre. Laissez moi en paix. L'uniforme, moi, ça me bride. Rien à faire, faire, faire. Je suis naissant, j'ai toujours eu mes propres idées. J'avance tête haute et j'en chie mon existence. Est trop courte pour en faire une pâle copie conforme. Alors j'enchaîne.
Action.
Parler dans les enceintes. Pour les tordus et les gens simples. Musique, mon amour, oui, je la nourris. Normal, je l'ai mise enceinte. Mon son, une tuerie là. Pour durer à le goût du risque et loin du reste. Je veux assurer, pas devant un jury. Juste pour déchirer à ma façon. Je suis navré. Cousin, CFO, Carena. Pas le même fuseau horaire. En retard ou en avance, je ne compte pas m'en excuser. J'en ai horreur.
Pour essayer de sortir de son désespoir.
Aucun de vous ne pourra dire au contraire. Notre histoire est dans le mur. Je ne serai rien sans le secours populaire. C'est sûr, à terre comme d'habitude. Venu végé à l'amertume des prolétaires exclus. Ici l'espoir s'appelle PMU. Issu des pauvres, ma rancœur est légitime. Je suis ce bourgeois, ce que les noirs sont au skin. Aussi sincère que les paroles d'un alcoolique. J'ai évacué mon fardeau en remplissant des verres. Oublie l'amour, y'a pas de serrure à cette porte. L'argent ne fait pas le bonheur de porc. Les clodos seraient fort. Comme le pouvoir d'achat, ma race en chute libre. Si la faim fait des déterminés, je chante encore le ventre vide. De force, ils maintiennent nos têtes sous l'eau. Leurs poches déportent en sang, lisent les minima sociaux. Prolong, bien sûr, nos portes sont closes. Les restaurants du cœur sont le paradis des pauvres. De la France, j'en suis la face cachée. Résident entassé dans d'immenses têtes. Sans argent, leur femme est noyée dans les têtes. Constamment ignorée, même si on m'en dit de l'aide. Juste qu'ils appellent un déchet à qui on lance des miettes. Inexistants, mais blanc, arabe ou nègre, évidemment le décès. C'est ce qu'ils nous souhaitent, ils devraient s'en inquiéter. Prolétaire, marche ou crève.
Prolétariat, des soupçons. Prolétariat, c'est ce que nous sommes. Prolétariat, rejeté par le reste du monde. Dans ces tours qui nous emprisonnent. Prolétariat, des braves, des bonhommes. Prolétariat, c'est ce que nous sommes. Prolétariat, c'est par le reste du monde. On m'a appris à se relever solidement. Ce monde est trop inquiétant. Les richesses dans les caisses de la France, c'est l'argent des ouvriers dans le surendettement. Je suis un prolétaire avec le sens de l'acharnement. Aussi vrai que mes semblables puent le désespoir. Chez nous la réussite c'est être smicard. Si l'argent nous fuit, l'huissier lui n'est jamais en retard. La misère c'est le fric des politicards. Tricard car français de souche brûlée. Mise à l'écart, chien de la casse, de la caste des ouvriers. Mon quotidien en carence.
Je viens du Havre, même la mer fait la manche. Prolétariat, pauvreté, rien. Pour l'État, y'a l'élite et les babouins. On s'y déconseille avec des chiottes publiques. I'm prolétaire, donc panique.
Prolétariat, des soupçons. Prolétariat, c'est ce que nous sommes. Prolétariat, projeté par le reste du monde dans ces tours qui nous emprisonnent. Prolétariat, des braves, des bonhommes. Prolétariat, c'est ce que nous sommes. Prolétariat, c'est par le reste du monde. On a appris à se rendre pour ça et du monde aide. RMI, RSA, APL, CMU, CAF, ANPE, API, FSLNP, ALCR, CGT, SDF, SOS, en feu de détresse, je mène le même combat qu'Henri Grouès. Des cafards comme colocataires, ma race et celle d'en bas qui dans les galères se noient. Reste par terre, crois-moi, frère, pas de fraîche, pas droit. Leur salaire fait notre poids. J'étais précaire, bien avant de faire du peu. Race n'est pas des water, mais bien nos HLM, APL comme partenaire, nos droits rarataires. Aucun remède, prolétaire ou indigène, habitué des dettes. L'argent n'a pas d'odeur, merde, mes mains, elles sentent la merde. Même le ventre à terre, je resterai des terres. Venu faire des inégalités, ma guerre. Donne-moi un beat, je dynamite leur gratin. Donne-moi une arme, je te fais de l'art contemporain. Le macadam est dans ma peau. Mes blessures le confirment, les pauvres. J'suis ghetto depuis l'époque d'Alpha Blondy qui à l'écro a des excuses solides. La fin justifie le braco. Brave comme Bendit. Prolétariat, les braves des soupçons. Prolétariat, c'est ce que nous sommes. Prolétariat, projeté par le reste du monde dans ces tours qui nous emprisonnent. Prolétariat, les braves des bonhommes. Prolétariat, c'est ce que nous sommes. Prolétariat, c'est par le reste du monde. On m'a appris à se relever seul. Prolétariat. 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 Prolétariat.
Yeah.
hardcore ton truc.
Comment tu dis?
C'est hardcore, c'est brutal quoi.
Hardcore? Ah bah purée, ouais. Je suis pas à la page.
Principe actif, 102.4 FM.
Yeah.